Et Père, maintenant, nous voulons te demander encore ta grâce et ta bénédiction. Tu sais que nous avons des corps qui se fatiguent, des facultés qui ont besoin d'être stimulées, renouvelées. Alors nous nous attendons à toi et nous te disons, accomplis, ô notre Dieu, toutes tes promesses pour des enfants qui voudraient se laisser instruire par toi. Donne-moi la grâce pour parler, donne au cœur la grâce pour recevoir, et que cette heure dans tes parvis nous paraisse meilleure que mille ailleurs. Pour la gloire du Père, au nom du Fils et par la Toute-Puissance, du Saint-Esprit qui veut réchauffer nos cœurs et nous illuminer. Je tâcherai même de plaire à ma femme en étendant mes jambes sous la table, parce que de là-bas, elle voit tous mes gestes. Mais quelque chose. Eh bien, mes amis, nous allons reprendre maintenant, verset par verset, ce chapitre 2. Je lis dans la version seconde maintenant. Hier, je pense que vous avez pu réfléchir, même tôt ce matin, à certaines questions que nous avions proposées pour la soirée d'hier. Vous avez peut-être revu certaines expressions qui vous a frappé au sujet de Dieu. C'est comme ça qu'on apprend à connaître Dieu davantage. Il est parlé de sa volonté, il est parlé de sa sagesse, de sa puissance. Puis, vous avez aussi réfléchi, qu'est-ce que je connais réellement de Jésus? Est-ce que vraiment je le connais? Est-ce que je l'aime, qui est Jésus pour vous? On a parlé de vos parents, parce que vous devez aussi y penser, de vos amis, de vos connaissances, mais au fond, qu'est-il pour vous, après la soirée d'hier, ce Jésus aujourd'hui? Est-ce que Jésus est aimé? C'est vrai, quand on pose cette question à notre entourage, même peut-être à des parents, ils nous disent, mais moi j'aime Jésus, évidemment. Beaucoup de gens autour de vous qui vous diront qu'ils aiment Jésus, même des athées, ils ont de l'admiration pour Jésus. Je dirais même qu'un communiste m'a dit un jour, mais Jésus-Christ, mais oui, moi j'ai de l'admiration, c'est le premier des communistes, n'est-ce pas? Oui, mais avec une petite différence, n'est-ce pas? C'est que Jésus a dit, ce qui est à moi est à toi, tandis que le communiste il dit, ce qui est à toi est à moi, hein? C'est le communisme de la revendication. Donne-moi ce que tu as, hein? Tandis que Jésus, il donnait ce qu'il avait. Et non pas seulement il donnait ce qu'il avait, mais il s'est donné. Et ça, c'est autre chose. Hein. C'est là la grande différence. Mais vous pouvez faire acclamer Jésus-Christ par les communistes, suivant comme vous le présentez. Hein. Les paroles qu'il a dites, vous les sortez de leur contexte, et puis vous partez. Là. Jésus-Christ, premier des socialistes, c'est tout ce que vous voulez. Jésus-Christ, il est de la gauche. D'autres diront, non, non, il est de la droite. C'est le réactionnaire. Chacun peut avoir de l'admiration pour Jésus-Christ. Mais pour vous, qu'est-ce qu'il est? Et puis certains vous diront, ah, Jésus-Christ, chez les gens religieux, c'est un modèle. Mais un modèle qui est toujours extérieur à eux. On ne le voit pas en eux. C'est ça qui est tragique. Alors, Jésus-Christ modèle, c'est un modèle extérieur, mais il est parfaitement inimitable. Si Jésus est simplement votre modèle, ça ne suffit pas. Et alors, ce qu'il faut arriver à croire, et même chez de bons protestants aussi, qu'est-ce que Jésus-Christ est? Jésus-Christ, il est Dieu. Alors ça, ça vous choque. Un grand homme, oui. Jésus de Nazareth, oui. Avant Gandhi, avant tous ces hommes qui ont une réputation dans ce monde, mais Jésus-Christ, Dieu. Eh bien oui, c'est ça qu'il faut croire. Il faut discerner qu'en Jésus-Christ, vous êtes en face de Dieu lui-même. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Il a vu le Père. La connaissance réelle et complète de Dieu ne se découvre qu'en Jésus-Christ. Il faut le contempler. Et alors, je vous ai demandé aussi, que cherchez-vous dans l'Évangile? Est-ce que vous cherchez dans l'Évangile? Ah, il y a des gens qui disent, moi j'aime l'Évangile. Oh, vous savez, la Bible c'est trop gros, mais l'Évangile, alors moi je le lis. Je lis l'Évangile. Mais ils ont une très petite Bible, hein? Seulement l'Évangile. La Bible, oui. L'Évangile, c'est dans la Bible. Alors, on dit qu'on lit la Bible, mais on lit l'Évangile. Ou bien alors, on dit, moi, je lis les psaumes. Hein. Parce que les psaumes, il y a des consolations. Et puis, quand on est en rage contre quelqu'un, brise-leur les dents dans la bouche. C'est dans la bouche. C'est dans la Bible, ça. Hein, ça. Alors, on se régale de ça. Hein. Vous voyez, hein, il devra aller chez le dentiste après ça. Alors, j'en connais quelque chose. Moi, j'ai entendu une femme, Madame Odossola, dans l'année de ma vocation, qui disait, elle venait un jour, elle m'apprenait l'italien, puis elle me disait, oh, vous savez, Gaston, hein, c'est formidable, j'ai dit, briseur les dents dans la bouche, elle était épanouie, rayonnante, parce qu'elle était antifasciste, elle était contre Mussolini, toute la compagnie, et en tout cas contre le pape, alors. Alors, elle se réjouissait que peut-être un jour, ils auraient les dents brisées. Ça lui faisait du bien. Ah, c'était un numéro de cirque, cette personne-là. Je l'aimais bien quand même. Un vieux professeur, mais elle en avait vu des vertes et des pas mûres. Alors, elle avait de la peine à pardonner. Elle l'a quand même fait. Alors, qui est Jésus pour vous? Est-ce que vous y cherchez dans cet évangile vraiment les paroles de Jésus, le sens de sa vie, le sens de sa mort, ou bien une sagesse humaine? Oh, je veux croire que vous avez compris que Jésus était une personne et que l'Évangile nous présente une personne. On a posé la question, est-ce que nous sommes des Corinthiens? J'espère que vous avez compris que nous ressemblons drôlement à ces Corinthiens. On a des parties. Qu'est-ce qui était commun aux Juifs et aux Grecs? Malgré leurs divergences, on l'a vu, ils périssaient. Que désirait le juif? Il voulait des miracles, des signes, et un Christ crucifié, c'était un scandale pour lui. Que recherchait le grec? La sagesse, l'intelligence, la culture, les arts, l'éloquence peut-être. Puis qu'est-ce qu'apportait l'apôtre avec le message de la croix? C'était un sauveur crucifié, un sauveur sans forme, sans éclat. Quelqu'un qui paraissait avoir fini dans l'échec le plus total. Est-ce que c'est vraiment ça le message? Et je vous ai demandé si dans la vie pratique, vous étiez en communion avec les choix de Dieu. Qu'est-ce qu'il a choisi, Dieu? Les choses folles, les choses en fait, vous connaissez tout ça, hein? Maintenant ça rentre. Est-ce que vous avez saisi le sens profond de la mort du Christ? En finir, mourir pour que nous en ayons fini avec notre vie en Adam. Puis, on est arrivé au dernier verset, quels sont les caractères d'un vrai chrétien? Et j'espère que ça a été tonique pour vous et que vous apprendrez par cœur ce verset. C'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption. Voilà ce qu'est le Seigneur. Il est tout en nous, tout ce dont nous avons besoin. Alors que nous n'avions rien et que nous n'étions rien, le Seigneur est tout, et ce ne sont pas des mots, c'est la réalité. Où vous êtes en Jésus-Christ, où vous n'y êtes. Et qui est-ce qui vous a mis en Jésus-Christ? Un prédicateur? Dieu lui-même. Et vous y êtes par sa volonté. Est-ce que quelque chose peut s'opposer à la volonté de Dieu? Si lui vous a mis en Jésus-Christ, est-ce que ça dépend simplement de votre décision? Non. Ça dépend de sa volonté. Alors vous avez une assurance qui ne repose pas sur vos émotions d'un moment, mais sur la volonté de Dieu qui voulait votre salut quand, au début de la création, avant la fondation du monde. Alors, vous voyez quelle certitude peut s'emparer de votre cœur. Maintenant, nous commençons notre étude. pour moi, chapitre 2, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Et qu'est-ce que c'est le témoignage de Dieu? À quel moment Dieu a-t-il témoigné au sujet de son Fils? Au baptême d'abord. Hein? Au baptême, Dieu a dit, c'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon plaisir. Il y a eu des témoins qui ont... Tous les apôtres, à l'exception de Paul, étaient témoins de cela. Parce que pour être apôtre, il fallait avoir assisté au baptême de Jésus au temps de Jean, hein, et puis avoir été jusqu'à son élévation dans la gloire. Hein. Il fallait avoir été disciple depuis le baptême de Jean jusqu'à ce que Jésus soit retourné au ciel. Mais ils n'étaient pas seulement témoins que Dieu avait parlé sur la Sainte Montagne. Qu'est-ce qu'ils avaient entendu? Confirmation que Jésus, à la fin de sa course, avait pleinement glorifié Dieu. Quand il a été transfiguré devant eux, lui qui était souvent fatigué, lassé du chemin, en tant qu'homme, parce qu'il avait revêtu réellement un corps qui avait été formé pendant 9 mois dans le sein de la Vierge Marie, eh bien, dans ce corps, il a connu la souffrance, il a connu la douleur, la fatigue, l'angoisse, mais il était sans péché, conçu du Saint-Esprit né de la Vierge Marie. Nous tenons absolument à ces vérités fondamentales. Mais dans son corps, sur une terre comme celle qu'il visitait, il a connu toute espèce de tribulation, de sorte qu'on pouvait voir sur son visage aussi les traits d'une certaine fatigue. Son visage était défait, défiguré, plus que celui d'aucun homme. Mais soudainement, sur la montagne de la Transfiguration, on a vu Jésus glorieux. Et on a entendu la voix du Père qui disait, celui-ci est mon Fils élu, hein, que j'ai choisi. Et qu'est-ce qui était ajouté? Écoutez-le. Est-ce que vous l'écoutez? Écoutez-le. C'est le témoignage de Dieu. Vous avez non seulement à croire que Jésus est le bien-aimé de Dieu, mais vous avez à l'écouter. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Quand on dit qu'un enfant écoute bien sa maman, ça veut dire qu'il lui obéit. Alors c'est là la question. Votre relation avec Jésus, est-ce que c'est une relation amoureuse? Relation amoureuse qui est aussi celle de l'obéissance. Jésus a défini ce que c'était l'amour. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est absolument clair que l'amour a sa manifestation dans une obéissance. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors c'est ça le témoignage de Dieu, il est son élu. Et alors le plus grand témoignage que Dieu ait pu rendre à son Fils, c'est à quel moment? Par la résurrection. Jésus a été crucifié, il semblait que Dieu l'avait abandonné, Jésus a été enseveli, mais le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Et il est sorti du tombeau. Les disciples sont allés voir au tombeau. Marie, les femmes sont allées au tombeau. Il était vide. Mais un tombeau vide ne nous suffit pas. Et on a parlé d'enlèvement. Mais nous le disions l'autre jour à Grimby, je crois. Hein, ce n'était pas un enlèvement. Parce que si on avait enlevé le corps du Seigneur, qu'est-ce qu'on aurait retrouvé dans le tombeau? Rien. Ou peut-être les aromates. Mais les linges étaient là. On aurait laissé le Seigneur pour l'enlever, il fallait qu'il soit lié. Hein. C'est plus facile de porter un corps qui est bien attaché. Mais il était délié et le suaire, même si c'est celui de Turin, le suaire, il était plié à part, hein, comme s'il fallait le conserver, le suaire qui couvrait son visage. Il était vraiment à part. Donc, comme je le disais l'autre jour, le Seigneur n'a pas été enlevé et puis il n'est pas sorti avec précipitation. Il a mis tout en ordre et il a quitté le tombeau, en pleine force de vie. Là, il était en forme. Vous pouvez être sûr. Que la grâce du Seigneur nous soit donnée. Alors, quand Paul est allé leur annoncer le témoignage de Dieu, c'était la plus grande simplicité. Et je pense que vous aurez compris la première question. Dans le chapitre 2, Paul est-il conséquent avec ses convictions? Qu'est-ce que vous dites? Oui. Parce que il avait compris à Athènes que de faire un merveilleux exposé de sagesse humaine, ça ne touchait pas vraiment les cœurs. Alors, partant d'Athènes, il se dit, je vais à Corinthe, mais là, je ne veux rien savoir de tout mon bagage intellectuel. Ce que je vais apporter, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Vous voyez qu'on peut changer de pensée là. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose. Et ce serait, pour ceux qui désirent méditer la parole, c'est quelque chose de fantastique de prendre le mot « chose ». « Je sais une chose », disait l'aveugle. Je n'en savais pas beaucoup. « Je sais une chose, j'étais un aveugle et maintenant je vois. » Chapitre 9 de l'évangile de Jean. Et puis, ensuite, vous avez la parole de Jésus qui dit « Une seule chose est nécessaire, c'est de cultiver la communion avec le Seigneur. » C'est Luc au chapitre 10. Et puis après, une seule chose, quand on est vraiment dans la communion du Seigneur, on ne demande plus qu'une chose. Dans nos prières, voyez-vous, c'est bien simplifié, on ne demande pas 36 choses. Chapitre 27 des psaumes, le psaume 27, j'ai demandé une chose à l'Éternel et je la rechercherai. On sait une chose, on a compris qu'une seule chose est nécessaire, c'est la communion, une fois qu'on est sauvé, et puis ensuite, dans nos prières, on ne demande plus qu'une chose, c'est de pouvoir le voir lui, parce que tout le reste nous est donné par surcroît. Et puis, alors, maintenant, on ne sait plus qu'une chose. On sait que la vraie sagesse, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est crucifié. Puis on pourrait dire aussi, je fais une chose, je cours. Hein? Oubliant les choses qui sont derrière, et j'espère que plusieurs oublieront cela, vous oubliez ce qui est en arrière, puis vous tendez avec effort vers ce qui est devant. Alors, Paul ne veut savoir qu'une chose, que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. C'est pas n'importe quel Jésus, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui vous parlent de Jésus. Mais c'est rare qu'on entende vraiment la prédication de la croix, un Jésus crucifié. J'ai entendu des théologiens qui disaient, nous en avons assez de cette doctrine de boucher, de cette théologie d'abattoir, un père qui sacrifie son fils, nous ne voulons pas entendre parler de cela. Jésus, ses paroles, ses paraboles, ça c'est bien. Mais Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ mourant à la place des autres, non, c'est pas digne d'un père. Hein. C'est une doctrine de démon, cela. Voilà ce qu'on peut dire quand on tord les Écritures. Et pourtant, Paul dit, je ne veux pas savoir autre chose. C'est Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Est-ce qu'il est conséquent avec ses convictions? Oui. Et puis, est-ce qu'il se trouve en forme pour prêcher? On l'a dit, hein, mais il ne se trouvait pas en forme. Il ne se sentait pas du tout en forme. Il était tremblant. Et quand on expose la parole aux âmes, c'est bien dans ces sentiments-là que l'on se trouve. On sent une immense responsabilité parce que, suivant comme je vous présente Jésus, vous pouvez le recevoir ou alors le repousser. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre le nom de Jésus à toutes les sauces. Faites bien attention à cela et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Paul est conséquent. Ce qu'il dit, il le vit. ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est pas Paul qui agissait, c'était l'Esprit de Dieu par les paroles que Paul transmettait avec une grande simplicité et dans le tremblement, parce qu'il voulait que leur foi soit fondée non sur la sagesse des hommes. Il ne voulait pas que les gens sortent en disant « Oh, comme il a bien parlé !»« Ah, cette fois, vous savez, je suis convaincu. Il a réussi à me convaincre. » Pauvre union. C'est désolant quand on entend des gens dire « Ah ben, vous savez, vous m'avez convaincu. Puis c'est moi qui vous ai convaincu. » Ça durera quelques heures. Ça durera une semaine. Puis après, vous irez entendre quelqu'un d'autre qui vous dira autrement. Puis vous direz, ben encore lui, il est encore plus convaincant que l'autre. Puis vous serez toujours avec des bons hommes. Vous changez. Hein? Ça devient de la prostitution aussi. Alors, à un moment, on est en amour avec un prédicateur, et puis après, on est en amour avec un autre, et ça continue ainsi. Puis on parle de l'homme, on ne parle pas de Jésus. C'est pas Jésus qui est vu en nous. Je ne voulais pas que votre foi soit fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il faut que vous ayez affaire avec Dieu. Cependant, croyez-le bien, ce que Paul prêchait, c'était une sagesse. Mais la vraie sagesse. Une sagesse qui nous dépasse complètement, parce que nous, nous n'y aurions jamais pensé à sauver le monde par ce moyen-là. Envoyer quelqu'un de pauvre qui naît dans une étable et qui vit au milieu d'une famille pauvre, Joseph et Marie, charpentier. Un homme qui n'a rien, qui va de lieu en lieu, faisant du bien, mais qui n'a aucune richesse, et qui s'entoure de qui? Des grands de ce monde? Des pauvres, c'est des pauvres qu'il appelle. Pierre, Jacques, Jean, les premiers disciples, André. Et pourtant, c'était une sagesse qu'il prêchait parmi les parfaits. Les parfaits, ce n'est pas des gens qui sont arrivés à la perfection, mais qui marchent vers la perfection. Ils sont déjà parfaits parce qu'ils ont le Christ. C'est le Christ qui est parfait en eux. Et spécialement ici, les parfaits, ce sont ceux qui sont parvenus à vraiment une maturité spirituelle, qui ne sont plus des petits-enfants. Mais une sagesse qui n'est pas celle de ce siècle. Ce siècle, c'est le monde, vous l'avez compris. Hein. Ni des chefs de ce siècle, les conducteurs du monde, les chefs de ce siècle, que ce soit des hommes politiques ou religieux, ils vont tous être réduits à l'impuissance. Ils passent tous. Hein. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu. Qui c'est la sagesse de Dieu? C'est le Seigneur. Hein? Il est la sagesse. Nous prêchons une personne. Nous ne prêchons pas des idées. Nous prêchons, maintenant vous comprenez bien que la sagesse de Dieu, c'est quelqu'un. Mystérieuse et cachée. Mystérieuse avant, parce qu'on n'y pensait pas que le Seigneur apparaîtrait de cette façon-là. C'était mystérieux. Mais un mystère dans le Nouveau Testament, c'était quelque chose qui était caché avant, mais qui a été révélé. Et les apôtres ont reçu cette révélation. Et cette révélation, bien, Dieu le leur a donnée, c'est que avant les siècles, c'est-à-dire avant la création du monde, eh bien, Dieu avait un plan dans lequel il destinait ses créatures à la gloire éternelle. Voilà, le plan de Dieu, le dessein de Dieu, c'est que vous étiez prédestinés à quoi ? À la gloire. Et quelle serait cette gloire, si vous voulez vous en faire une idée? Une gloire qui est semblable à celle de son Fils. Voilà à quoi vous étiez prédestinés. Voilà le secret. Dieu, en vous faisant naître, vous prédestinait à être semblable à qui? À son Fils. Est-ce que c'est pas une raison de vivre pour vous? Pourquoi est-ce que vous êtes sur la terre? Ne regardez pas ce que vous êtes maintenant, ne regardez pas à vos manquements, ne regardez pas aussi à vos infirmités. Regardez le Seigneur, et c'est ce que je vous disais ce matin, quand vous êtes occupé des gloires du Seigneur, vous vous oubliez vous-même et vous vous enracinez et vous êtes fondé dans la foi et dans l'amour de Jésus. C'est une sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, parce que si vous n'aviez pas cette révélation, bon, on peut connaître, enfin tout le monde connaît Jésus aujourd'hui. Demandez à quelqu'un ici au Québec qui est Jésus. Tout le monde sait que Jésus est et l'homme qui a donné son nom à notre ère dite chrétienne, et qui dure depuis bientôt 2000 ans. Oui, mais est-ce que ces chefs de ce siècle d'aujourd'hui connaissent vraiment Jésus d'une façon vivante et réelle? Car, dit l'apôtre Paul, s'ils l'avaient connu au temps de Jésus, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils ne l'auraient pas crucifié, ils auraient connu le Seigneur de gloire. Ils auraient reconnu en lui le Seigneur de gloire. Il avait fait des miracles, bon, il avait même ressuscité des morts. Est-ce que les miracles que Jésus a faits ont amené les hommes à la foi? Non. Non et non. Et ceux qui vous disent qu'il faut que l'Église de nouveau fasse des miracles pour que les gens se convertissent, sont dans l'erreur. Je ne vous dis pas qu'il ne peut pas y avoir de miracles. Je crois aux miracles. Mais je n'emploierai jamais les miracles pour vous amener à Jésus-Christ. Vous devez être amené à Jésus-Christ en dehors de toutes les manifestations spirituelles que vous pouvez rencontrer. Il est prouvé par toute l'histoire chrétienne que les miracles n'ont pas amené les gens à la foi. Tu dois croire sans voir. Bienheureux, dit Jésus, ceux qui ont cru sans voir. Hein. Bienheureux celui qui a cru. Parce que tu as vu, dit-il à Thomas, tu as cru. Mais bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voilà une vérité qui doit s'imprégner en vous. Ça met de côté toute une foule de doctrines et de propagandes qui n'aident pas les gens à avoir une foi réellement solide. Parce que, après avoir été impressionné par un miracle, qu'est-ce qui arrive à notre cœur incrédule? On se dit, oui, oui, je ne peux pas contester ça, mais, hein, et on essaye de trouver une explication rationnelle. C'est vrai ou c'est faux? On est impressionné sur le moment. Mais après, puis il y a d'autres qui nous parlent, qui nous pensent, tu sais, truquer tout ça, ou des trucs comme ça. Et puis ça va te revenir. Puis alors, le drame, mes amis, c'est que des gens, on leur fait dire qu'ils sont guéris, et ils ne le sont pas. Il y a mensonge dans les églises. Il y a mensonge flagrant. Mais je ne dis pas que ces pauvres malades qui viennent témoigner qu'ils sont guéris sont eux-mêmes des menteurs. Je dis que les conducteurs spirituels sont des menteurs. Et ils le savent. Ils vous disent, on t'impose les mains, tu dois croire et tu es guéri. Bon. Et pour prouver que tu es guéri, même si tu sens encore toutes les douleurs, va sur l'estrade et dis-leur que tu es guéri. Indépendamment de ce que tu ressens. Et alors Dieu sera obligé de te guérir. Et si ce n'est pas ce soir, ça sera dans la semaine. On les revoit plus, hein. On passe plus loin. Pour dire, dans telle ville, j'ai eu tant de guérisons. Attention, mes amis. Et il y a toute une préparation psychologique qui est en train de se faire pour que quand l'homme de péché, l'antichrist, paraîtra, il prendra le monde par cette séduction. Il fera des miracles mensongers, il fera même descendre le feu du ciel comme Élie. Hein. Puis les gens diront, mais c'est... Ça, c'est le Seigneur. Et ils croiront au mensonge, parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et c'est quand même triste de penser que même il y a des chrétiens fondamentalistes et qui travaillent à cela, à une préparation. Ils en sont peut-être inconscients, mais vous, vous devez avoir du discernement spirituel. Vous devez avoir la tête sur les épaules, comme je dis souvent, les pieds sur la terre, mais le cœur existentiel. Et alors, vous ne vous laisserez pas entraîner par ceci, entraîner par cela, parce que c'est très beau de prétendre qu'on fait des miracles, etc. Et puis quand vous voyez les gens de près, eh bien vous voyez qu'ils sont encore malins. Puis quand vous leur demandez, mais comment est-ce que tu as pu dire que tu étais guéri ici? Eh bien, ils m'ont dit de le dire. Combien est-ce qu'on t'a payé pour dire ça? Oh non, on n'est pas si loin. Mais c'est presque cela. Et alors, on vous conditionne. Puis vous attendez la guérison. Puis si elle ne vient pas, vous êtes désespéré et vous vomissez, non pas à l'homme qui vous a dit ça, mais le Seigneur. Parce que c'est toujours lui qui est responsable. Alors, le drame, c'est que vous devenez les ennemis de la croix du Christ. Et Paul disait cela, je vous le dis en pleurant, il y en a qui marchent et qui sont ennemis de la croix du Christ. Attention, mes bien-aimés, je vous aime assez pour vous le dire. Le Seigneur de gloire, oh, ils ont vu des miracles, que ce soit les pharisiens, que ce soit les sadducéens, les souverains sacrificateurs, ils ont su qui était Jésus, ils ont vu ces miracles, mais ça ne les a pas convaincus. Ils ont même déchiré leur robe en disant, il a blasphémé, il s'est dit être Dieu. On va bien voir maintenant. Et quand Pilate l'a condamné et qu'il a été crucifié et qu'on passait devant la croix en disant, ben, s'il est le fils de Dieu, que Dieu le délivre. C'est bien le moment que Dieu montre s'il aime son fils. Et voilà qu'il n'a pas été délivré. Alors c'est le scandale, comprenez-vous? Alors on est bien sûr que c'était pas le Fils de Dieu, c'était pas le Messie. Le Messie ne devait pas mourir. Ah, mes amis. Alors, vous voyez comme Paul est conscient de sa responsabilité. Puis, on continue. Quelle est la source, puisqu'il parle de puissance, d'une vie authentiquement chrétienne? Alors, il se base sur l'Écriture. Mais, comme il est écrit, et je pense que vous aurez plusieurs fois souligné qu'il est tout le temps parlé, il est écrit. Paul cite quoi? L'Ancien Testament. Comme il est écrit, selon les Écritures. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Ça, on peut le sortir de ce contexte et puis le donner à des personnes pour leur montrer que tout ce qui nous attend dépassera encore, si nous avons la foi, tout ce que nous pouvons espérer et penser. Mais littéralement, cela veut dire que ce salut que Dieu avait préparé, ça dépasse absolument tout ce qu'on pouvait concevoir. Nous, avec notre sagesse humaine, nous n'aurions pas pris ce moyen-là. Envoyer son propre fils, naître d'une femme qui aurait même conçu du Saint-Esprit, ce n'était pas dans nos idées. Parce que croire qu'une femme conçoit du Saint-Esprit, ça ne marche pas. Allez le raconter ailleurs. Qu'une femme peut concevoir sans un homme ou sans le sperme de quelqu'un, même congelé, hein, parce qu'on arrive à ça, hein, on arrive à ça. Non, racontez ça ailleurs. Eh bien, c'est pourtant ça que Dieu a opéré, une œuvre qui était inconcevable. Envoyer son fils. Encore s'il avait envoyé un ange. Mais son unique, son propre fils, mais c'est ça une folie. Bien, Dieu vous aime à la folie. Parce qu'il voulait vous sauver. Et quand Jésus était sur la terre, qu'est-ce qu'il disait toujours? Il faut que je meure. À cause de ceci, mon Père m'aime, c'est que moi je donne ma vie. On n'est pas sauvé, et je l'ai dit souvent et je vous le redis, par les paroles de Jésus. C'est beau de connaître les paroles de Jésus. Mais ce n'est pas les paroles de Jésus qui vous sauvent. C'est sa mort. Si Jésus n'avait donné que des paroles, nous aurions un merveilleux exemple, nous aurions de la belle littérature. Mais Jésus n'a pas seulement donné des paroles, il est mort. Parce que le salaire du péché, c'était la mort. Et pour régler la question du péché définitivement aux yeux de Dieu, il fallait qu'il prenne sur lui nos péchés. Et qu'il subisse la condamnation du péché qui était la mort. On ne pouvait pas être racheté avec de l'or, de l'argent, mais uniquement par la vie donnée, le sang précieux de Christ. Qu'est-ce que c'est le sang précieux de Christ? C'est pas de l'eau de Javel, hein, qui nous lave. Le sang précieux de Christ, c'est l'expression de sa vie donnée. Le sang répandu, c'est une vie qui a été donnée. Eh bien, nous sommes rachetés par le sang précieux de Christ, c'est-à-dire par la vie donnée du Seigneur Jésus. Mais ça, comment est-ce qu'on pouvait concevoir ça, qu'un père sacrifie son fils parce qu'il aimait tellement les créatures qu'il avait faites qu'il voulait les sauver et donner à tous le salut. La grâce qui nous apporte le salut, elle est apparue à tous les hommes, dit l'Écriture, n'est-ce pas? Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Jésus-Christ n'est pas seulement mort pour mes péchés, il est mort pour les péchés du monde entier. De sorte que quand vous priez pour une âme, vous savez que vous demandez à Dieu quelque chose qui est possible. Et si cela est possible, vous pouvez aussi, si vous avez la foi, croire que vous serez exaucé. Tout ce que vous demandez à Dieu, qui est selon sa volonté, eh bien, croyez que vous l'avez. C'est peut-être pas dans ce jour-ci que ça va se passer, mais vous pouvez être sûr que vous l'avez. Alors, rendez grâce, c'est ce que nous avons dit, n'est-ce pas? Que déjà vous puissiez rendre grâce. Vous êtes déjà dans la louange, vous y croyez. Et c'est ça qui est fantastique. Et ce n'est pas une utopie, c'est vrai de vrai. Alors, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, alors qu'est-ce qu'il faut pour nous? Il nous faut l'aimer. Moi, je ne peux pas vous forcer à l'aimer. Mais, dans la mesure où vous le contemplez, vous apprendrez à l'aimer. Et Dieu nous a révélé ces choses par l'Esprit. C'est par l'Esprit. Alors, quelle est la source de puissance d'une vie authentiquement chrétienne? C'est le Saint-Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dans l'Apocalypse, il est parlé des profondeurs de Satan, mais il y a les profondeurs de Dieu. Et vous savez, il faut descendre dans ces profondeurs de Dieu. Il faut apprendre à connaître les choses profondes de Dieu. Oh, elles sont si profondes. Et quand Dieu est dans notre cœur, il faut descendre jusqu'au plus profond de notre cœur. Dieu n'est pas au ciel retiré, il est où? Dans votre cœur. Alors, quand le fils prodigue a retrouvé son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré en lui-même. Avant même de courir à la maison, il est rentré en lui-même. Et c'est quand on rentre en soi-même et qu'on descend dans les profondeurs de nous-mêmes que nous trouvons Dieu. Dieu n'est pas loin de vous, il n'est pas à côté de vous, il est en vous. Alors descendez, ayez une vie intérieure, descendez dans ces profondeurs et vous y trouverez Dieu. Non pas un Dieu lointain au fond du ciel, mais un Dieu qui est là tout près de nuit, quand vous êtes au lit, quand vous êtes où que vous soyez, dans les profondeurs de Dieu. L'Esprit vous fait entrer dans ces profondeurs. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme? Nous avons un esprit, une âme et un corps. Mais c'est, vous ne voyez pas mon esprit. Vous pouvez discerner quelque chose de mon âme, de mes sentiments, de ce que je vous fais peut-être éprouver. Vous voyez mon corps et mon âme a une manifestation. Mais mon esprit, vous ne le voyez pas. C'est mon esprit qui est en relation directe avec Dieu. Eh bien, mon esprit aussi sait des choses que vous, que je ne vous dis pas peut-être. Je ne vous dis pas certaines choses encore, parce que peut-être vous ne pouviez pas les supporter maintenant, mais on ira plus loin. Mais c'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc, pour connaître les choses de Dieu, qu'est-ce qu'il faut avoir? L'esprit de Dieu. C'est l'esprit qui nous convainc de péché. Ce n'est pas un prédicateur qui peut vous convaincre de péché. Je peux vous dire que vous êtes pécheur, vous me direz, mais moi je le sais. Ça fait longtemps que je le sais. Je peux vous dire, vous êtes une pécheresse, vous savez que vous êtes une pécheresse? Si vous êtes un peu droit, vous direz bien sûr que je le sais. Mais oui, mais tu peux reconnaître que tu es une pécheresse, mais sans te repentir. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'amener à la repentance, parce que tout à coup, il te montre la croix. Eh bien oui, cette croix. C'est à cause de mes péchés qu'il a dû être cloué sur une croix, qu'il a dû tout souffrir. Alors tout à coup, quand je vois la croix, quand je pense à Jésus crucifié, je commence à éprouver. Mais j'ai horreur de mes péchés. C'est mes péchés qui ont nécessité la mort de Jésus. Alors ça change. Il a tellement souffert. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Et quand c'est l'esprit qui vient de Dieu, eh bien, il nous convainc. Parce que c'est un esprit qui est saint. Ce n'est pas l'esprit des festivals. Hein. Festival, c'est la joie, c'est la joie. Mais un esprit saint. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Vous les avez, ces choses, mais vous ne les connaissez pas. Vous avez des trésors, vous avez des richesses, mais vous n'y êtes pas descendu pour les découvrir. Ces choses vous ont été données de Dieu. Alors que le voile se déchire et que vous puissiez découvrir les choses qui vous ont été données par grâce. C'est gratuitement que vous les avez. Et vous les avez. Vous avez des richesses insoupçonnées en vous. Et alors Paul dit, nous en parlons de ces choses, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Alors il dit, vous savez, ce n'est pas mes facultés qui sont extraordinaires, mais je me laisse guider par l'esprit. Je mets mes facultés au service du Seigneur. Seigneur, emploie mes membres. J'ai livré mon corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et mon corps, c'est tous mes membres. Ce sont aussi mes facultés. Et le langage que j'ai à employer, c'est le langage de l'esprit. Employant un langage spirituel pour communiquer des choses spirituelles. Faites bien attention. On dit, mais peu importe les moyens, pourvu que les gens soient sauvés. Mais c'est vous qui les sauvez. Attention aux moyens que vous prétendez pouvoir employer. Il faut, la version la plus littérale dit, communiquant des choses spirituelles par des moyens spirituels. Or, aujourd'hui, on veut communiquer des choses spirituelles par des moyens mondains. C'est clair ou c'est pas clair? On dit, ça, le monde réussit avec ça. Eh bien, nous allons employer les mêmes moyens pour communiquer ces choses. Or, c'est absolument faux. Nous devons communiquer les choses spirituelles par des moyens spirituels. Au lieu de nous inspirer de ce que fait le monde, il nous faut nous tenir devant Dieu, avoir une vie avec Dieu et recevoir les directions de mon Dieu. Jésus ne faisait pas autrement. Pourquoi est-ce que vous le voyez si souvent le soir? Seul avec son Dieu, passant la nuit en prière, parce qu'il voulait apporter au monde dans lequel il se trouvait ce qu'il avait entendu de Dieu. C'est ça qui m'a toujours bouleversé, qui a imprégné ma vie. Jésus ne disait rien qu'il n'avait entendu dire par le Père. Il ne faisait rien qu'il n'avait vu faire par le Père. Alors je me dis, est-ce que le Père fait ça? Parce qu'il peut tout faire, bien sûr. Mais est-ce qu'il fait ça? Est-ce que c'est du Père? Ça? Non, ça c'est du monde, je sais. Est-ce que le Seigneur dirait cela? Je n'ai pas vu ça sur ses lèvres. Alors, je dois me taire. Verset 14. Mais l'homme naturel, qu'est-ce que c'est que l'homme naturel? C'est l'homme animal, hein, comme on est. On est naturel, n'est-ce pas? Nous sommes nés de femmes, et voilà, notre enfant, ben c'est un enfant, oui, naturel, dans un sens. Hein? On est né d'Adam, on est de la descendance d'Adam. C'est l'homme qui n'est pas encore régénéré. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour l'humain du peuple. Vous allez employer ça? Mais on doit réussir dans l'évangélisation, par exemple. Alors, il nous faut employer certains moyens. Bien, l'apôtre Paul, il a arrêté dans son cœur que quand il irait à Corinthe, cette ville corrompue, cette ville de prostitution sacrée, mais qu'est-ce qu'il ferait? Il ne parlerait ni de sagesse, puis il ne ferait pas de miracle. Alors, mission zéro. S'il veut repartir de Corinthe en disant « j'ai eu tant de conversions à Corinthe », parce que nous, on dit « il faut sentir le peuple, il faut sentir ce que le monde aime ». Ah ben, le monde voudrait voir des miracles. Demain, maintenant, moi, j'ai reçu le don de miracles. Je prétends ça, hein, j'ai reçu le don de guérison. Ce qui ne veut pas dire que le Seigneur ne peut pas nous le donner. Mais quand on a reçu un don, on ne l'exige pas. On l'applique. Et il y a des guérisons. Alors, attention. Le monde cherche des miracles. On va faire des miracles. Et on annonce une grande campagne de miracles. Toujours à la gloire de Dieu. Bien sûr, parce qu'on met Dieu à toutes les sauces. Et puis, le monde recherche la sagesse. On fera venir un prédicateur qui est très éloquent, qui a des connaissances au point de vue peut-être prophétique, tout ce qu'on veut, et puis il va intéresser la foule. Il va intéresser les sages et les intelligents. Si les petits ne comprennent rien, vous savez ce que c'est que les petits. Ça va pour les syndicats. Mais nous, on veut atteindre la classe intellectuelle, et peut-être les universitaires, surtout. Puis on aura une assemblée, enfin, d'universitaires. On a eu assez de ces gens qui n'avaient rien à perdre en quittant l'Église catholique, qu'on a toujours dû aider matériellement, qui sont toujours sur le bien-être social, qui n'ont pas beaucoup d'éducation, qui ne savent pas vivre, ils n'ont pas de manière, etc. Vous connaissez ça? Mais maintenant, on veut une autre classe. Nous voulons maintenant une élite. Parce que c'est l'élite qui va glorifier le Seigneur. C'est en rapport avec ce que Paul dit. Qu'est-ce que Dieu a choisi? Les petits, les sages, les pauvres, ceux qui ne sont rien. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas choisir un Paul, un soldat. Mais lui... son opinion sur ce qu'il était avant sa conversion, tout en ayant été bien instruit, il dit, 1 Timothée chapitre 1 verset 15, j'étais le premier des pécheurs. Vous savez, hein, on a dit quelquefois, il n'y a personne ici qui peut se nommer le premier des pécheurs. Il sera toujours en deuxième. Parce que le premier des pécheurs, c'est Paul. Hein. Tu peux te mettre dans la liste. Mais après Paul, moi je trouve que c'est merveilleux ça. Hein? Si tu crois que c'est trop mauvais, tu n'es pas encore le premier des pécheurs, parce que Paul a voulu prendre la première place. Je suis le premier des pécheurs, mais miséricorde m'a été faite. J'ai été un blasphémateur, un outrageux, un persécuteur, j'ai tout fait. Avec toute ma religion, voilà ce que j'étais. Mais miséricorde m'a été faite. Pour que je puisse servir d'exemple, pour que vous ici, vous ne vous découragiez pas. C'est pas merveilleux la parole? Et une vie qui reflète cette parole, qui incarne cette parole. C'est merveilleux, oui. Mais il nous faut y revenir. Et c'est l'heure. Ce sont les derniers moments pour y revenir. Mais il faut que nous recevions cet esprit de Dieu. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en vit. Mais vous savez, il y a peu d'hommes vraiment spirituels. Et je dirais qu'ils ont un discernement spirituel. On s'emballe. On est des émotifs. Et parce qu'on aime le Seigneur, on veut faire du travail pour le Seigneur. Il faut qu'en l'an 2000, dit-on, la Terre tout entière, on va prendre un satellite peut-être pour que quelqu'un puisse annoncer l'Évangile en même temps à toute la Terre. Hein, c'est le dernier des projets qui est en train d'être conçu en Amérique. Je ne dis pas par des hommes qui ne valent rien, c'est des hommes de bien. Mais attention, est-ce que c'est ça la pensée de Dieu? Et puis quand toute la Terre aura entendu l'Évangile, soi-disant, est-ce que tout le monde sera converti? Parce que vous pensez que c'est ça qui va amener le retour du Seigneur? Non. Il y a un plan, mais les gens ne connaissent pas le plan de Dieu. Et alors c'est la volonté de l'homme. On veut amener le monde à changer. L'homme spirituel, au contraire, il juge de tout et il n'est juger lui-même par personne. Parce que j'ai affaire avec Dieu, c'est lui qui est mon juge. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Attention, hein. Souvenez-vous bien de ce verset. Hein. Paul va nous dire bien des choses. Il nous dira, voilà ce que je pense, hein, moi. Il dit, j'ai pas reçu un commandement du Seigneur, vous allez voir ça plus loin. Hein. Mais ce que je vous dis, c'est ce que je pense. Mais qu'est-ce qu'il nous dit ici? Qu'il a la pensée de Christ. Quand il pense, c'est pas son imagination, c'est la pensée de Christ qu'il nous communique. Donc, il est question que pour comprendre les vérités, il faut vraiment le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. Et le Saint-Esprit l'est donné à ceux qui lui obéissent. Et si vous voulez que le Saint-Esprit puisse se manifester davantage en vous, eh bien, obéissez. Et vous verrez que le Saint-Esprit fera des œuvres extraordinaires aussi dans vos cœurs, dans vos vies intérieurement. Alors nous arrivons maintenant au chapitre 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Alors, vous voyez, on arrive à trois catégories de personnes. On a parlé de l'homme naturel. Qui c'est l'homme naturel? C'est l'inconverti. Hein? C'est l'homme du monde. C'est un homme naturel. Il a des facultés naturelles. Et il est peut-être même très brillant, il est peut-être même très éloquent, tout ce que vous voulez. Mais enfin, il n'a pas la vie de Dieu. Il a la vie de la chair. Il est né de chair. Et ce qui est né de chair est chair. Mais il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas né de l'esprit. Parce qu'une fois qu'on est né de l'esprit, eh bien, on est sur le chemin des hommes spirituels. Mais quand nous naissons à la vie chrétienne, comme c'est la vie de Jésus, Jésus a d'abord été enfant. Hein, mais il a grandi. Il est devenu adolescent, puis ensuite, homme fait. Alors, la conversion, c'est le commencement. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. C'est à des croyants qu'il parle. Hein. Mais il dit, vous êtes encore charnels. C'est pas parce qu'on est converti qu'on n'est plus dans la chair. On est encore charnel. Mais qu'est-ce qui doit nous dominer, la chair ou l'esprit? C'est l'esprit qui est dans la chair. Mais l'esprit doit dominer la chair. Mais nous ne devons pas laisser la chair dominer l'esprit. Parce qu'alors l'esprit est contristé, il ne dit plus rien. Mais là, Paul leur dit, j'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Or, à un enfant en Christ, on peut pas lui donner de la, à un petit enfant, on peut pas lui donner de la viande. Il faut lui donner du lait. Or, dans beaucoup d'églises, les gens en sont encore au lait. Oh, ce sont des sauvés. Ils ont compris le salut, peut-être, le petit salut, comme certains disent. Mais et ils sont toujours au lait, le biberon. Alors je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Alors, vous voyez, Jésus disait aussi à ses disciples, après 3 ans d'école, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Quand le Saint-Esprit sera venu, ils auront le complément. On ne peut pas dire tout à la fois. Il y a des personnes qui voudraient qu'on dise tout de suite tout à quelques âmes. Mais il faut mettre un diapason à nos connaissances. Ils ne seraient pas capables de supporter. Alors allons-y, doucement, progressivement, pas à pas, et ne bousculons rien, laissons le Seigneur agir. Car vous savez, c'est avec le Seigneur qu'il faut avoir affaire, et non pas avec un prédicateur. Le prédicateur, il est là juste pour vous montrer le chemin, puis après il disparaît. Mais vous avez le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui va vous enseigner. C'est lui qui va être votre lien. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Et alors, la preuve qu'ils sont charnels, il va la leur démontrer. En effet, puisqu'il y a parmi vous de là, jalousie. La jalousie, c'est une œuvre de quoi? De la chair. Regardez dans Galates. S'il y a de la jalousie, je suis encore charnel. Et alors je dois le reconnaître. Tiens, j'ai un tempérament jaloux, je suis converti, je suis au Seigneur. Mais je suis jaloux. Eh bien, c'est pas beau. Le Saint-Esprit me dit non, tu ne dois pas être jaloux. Réjouis-toi des dons qu'ont tes frères. Réjouis-toi du bien que tu vois dans tes frères. N'envie pas. Tu as tout en moi. Ce n'est pas les mêmes choses, mais tu as des choses que je t'ai mises. Alors, prends les choses qui t'ont été librement données, jouis de ces choses, et n'envie pas les choses que les autres ont. Tu ne serais pas capable de les porter. D'abord, tu n'as pas de place. Parce qu'on est tout rempli. Mais enlève déjà ta jalousie, ça fera du vide. Hein? Et le Seigneur pourra mettre quelque chose à sa gloire. Les disputes. Vous les connaissez, ces esprits de dispute? On veut avoir raison dans une discussion biblique. Mais c'est pas que moi j'ai raison qui compte. C'est que le Seigneur ait raison de nous deux. C'est vrai ou c'est faux? C'est que le Seigneur triomphe. Parce que quand moi j'ai raison, je ne connais qu'en partie. Et il y a une partie que j'ai pas vue. Si je vous dis de décrire ma main, vous me la décrivez parce que vous voyez la paume de ma main. Mais si je disais à quelqu'un de décrire ma main et il se trouve derrière, qu'est-ce qu'il verrait? Le dos de ma main. Et il dirait des choses un peu différentes, mais qui ne sont pas nécessairement en opposition. Alors au lieu de nous opposer dans nos vues, nous devrions les réunir. Parce que c'est la même main, mais vue d'un autre côté. Alors, il nous faut voir les choses d'en haut, avec le Seigneur. Et quand on les voit avec le Seigneur, eh bien, on va partout. Parce que le Saint-Esprit, il a des yeux partout. Lisez dans l'Apocalypse. Il y a les sept esprits de Dieu, puis les yeux sont partout. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Mais nous avons vu que nous devons marcher selon le Seigneur, selon l'Esprit, et non plus selon l'homme. Mais vous dites, mais les autres, là, mais c'est un serviteur de Dieu, il fait ceci, il marche comme ça. Ben, laisse-le marcher. Mais toi, marche d'après ce que tu as compris. Et ne tombez pas dans l'esprit d'imitation. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Parlez comme les hommes, vous prenez parti pour des hommes. Et alors il dit, mais qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Qu'est-ce qu'ils sont ces hommes? Mais c'est des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Vous avez cru. Mais Jésus disait au sujet des serviteurs, quand vous aurez fait tout ce que je vous ai dit de faire, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Non, mais moi, je suis le serviteur qui t'a amené au Seigneur, tu dois me rester fidèle. Tu trouves ça dans l'Écriture? C'est pas l'homme qui se met en avant. C'est pas un homme que tu dois rester fidèle. Paul n'aurait pas voulu de cette fidélité-là. C'était au Seigneur. Et regardez Jean-Baptiste, quand les disciples sont venus lui dire, tu sais, Jean, ce Jésus que tu as baptisé, il fait plus de disciples que moi. Que toi. Jean a loué le Seigneur. Et il a dit, il faut que lui croisse et que moi, je diminue. C'est beau la parole quand elle est vécue. Jean ne travaillait pas pour lui, il préparait le chemin du Seigneur. Et à un moment donné, quand on prépare le chemin, il ne faut pas se coucher au milieu du chemin. Hein, je suis là, tu ne passeras pas, tu restes avec moi. Non, il disparaît. Là, il faut le trou dont on parlait, hein, pour que le Seigneur puisse passer. Mais il faut être convaincu que nous passons et que nous devons disparaître. Ce qui doit paraître, c'est le Seigneur. Sans ça, on reste charnel. Alors, verset 6. J'ai planté, dit Paul. On ne peut pas nier ces choses. C'est lui qui avait commencé le travail. Puis Apollos est venu après. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrosé. Mais Paul était bien heureux qu'il y ait quelqu'un pour arroser. Mais qu'est-ce qui a fait croître? C'est Dieu. Alors vous voyez, toute gloire est donnée à Dieu. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose. Mais nous, on se croit toujours quelque chose. une drôle de chose. Ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Vous voyez, il faut toujours revenir à Dieu. C'est avec Dieu que vous avez affaire. C'est pas moi qui vous jugerai. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Vous voyez l'équilibre que vous avez dans tout cela. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Que c'est beau, hein. Le patron, c'est Dieu. Et il nous fait la grâce d'être ses ouvriers. Mais avec qui est-ce qu'on travaille? Avec Dieu. C'est pas un ange qui vient nous dire ce que nous avons à faire. C'est Dieu lui-même. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Or, il y a un tas de gens, de prédicateurs qui se réclament des anges maintenant. Un ange m'a dit. Attention au vieux prophète. Il a dit, un ange m'a dit. Et il mentait à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu s'est laissé séduire par la parole du vieux prophète. Vous êtes le champ de Dieu. Alors, si vous êtes le champ de Dieu, qui est-ce qui le cultive? Et à qui est-ce qu'il appartient, le champ? Il appartient à Dieu. Votre champ, à qui appartient-il? C'est le champ d'un homme? Non, qu'il appartienne à Dieu, vous êtes le champ de Dieu. Et vous êtes non seulement le champ, mais vous êtes l'édifice de Dieu. Vous n'allez pas simplement dans un édifice, mais vous, vous êtes l'édifice de Dieu. Quand les âmes se réunissent, il y a un édifice. Et c'est ça l'Église. L'Église, c'est l'édifice de Dieu. C'est l'Église de Dieu et c'est l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. C'est la pierre, hein, angulaire, le fondement. Jésus-Christ, comme un sage architecte. Puis maintenant, un autre bâtit le fondement. Est-ce qu'il y a plusieurs fondements? Il n'y en a qu'un dans le christianisme, c'est Jésus-Christ. Et c'est cela qui vous lie. Et puis maintenant, eh bien, nous bâtissons sur le fondement, mais attention que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. On ne bâtit pas n'importe comment, il y a un plan qui vient de Dieu, alors il y a le fondement, mais maintenant il faut savoir, Seigneur, que veux-tu sur ce fondement? Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc ça, sur ça vous êtes d'accord, hein? Vous n'allez pas construire sur Bouddha, sur Krishna, sur Mahomet, non, hein? Il y a un seul fondement, c'est Jésus-Christ. Mais maintenant, prenons garde, comment est-ce que nous construisons? Or, si quelqu'un bâtit sur le fondement, alors maintenant il faut des matériaux. Qu'est-ce qu'on va mettre sur ce fondement qui est Jésus-Christ? Alors il y a plusieurs matériaux. Il peut y avoir de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, mais aussi du bois, du foin, du chaume. Or qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui sur le fondement? On ne peut pas dire que les églises ne sont pas bâties sur ce fondement-là. Que ce soit l'église romaine, sur quel fondement est-elle bâtie? Non, littéralement, soyons corrects. Sur... Non. Ne dites pas des mensonges, là. Et ne soyez pas anti-ceci, anti-cela. Le fondement, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il ne faut pas nier cela. Toutes les églises dites chrétiennes qui ont une confession de foi, et il faut quand même savoir des confessions de foi, c'est pas depuis votre conversion que la vérité a commencé. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Mais voilà, qu'est-ce qu'on a bâti sur le fondement? C'est là qu'est la chose. Hein. On n'a pas amené toujours de l'or. Qu'est-ce que c'est l'or? C'est la justice divine. Comment est-on justifié devant Dieu? Par la foi et non par les œuvres. Alors, si vous bâtissez avec des œuvres sur le fondement, ça ne va pas, comprenez-vous? Mais il faut reconnaître que toutes les églises sont bâties ou se réclament sur ce fondement, Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que vous avez apporté sur le fondement? Si c'est les œuvres de loi, vous êtes encore sous la malédiction, et vous n'avez pas d'assurance, jamais d'assurance de votre salut. Alors, il faut apporter l'or de la justice divine. Dans l'Écriture, l'or est toujours le symbole de la justice divine. Vous êtes justifié sur le principe de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, n'est-ce pas? Non sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, vous avez bien compris cela. Hein? Bon. Et puis, on peut bâtir ensuite avec de l'argent. L'argent, c'est aussi un matériel précieux. Et l'argent, dans la parole, c'est le symbole de la rédemption. L'argent, c'est le symbole aussi de la parole, eh bien, et de la sagesse. La vraie sagesse, elle est plus que de l'argent. L'argent est souvent mis en relation avec la sagesse. Alors, ce que je dois bâtir, ce que je dois apporter, c'est un métal précieux sur le fondement. Je dois édifier les âmes dans leur salut. Nous devons grandir dans la connaissance du si grand salut de Dieu et nous sommes vraiment émerveillés. Et les pierres précieuses, qu'est-ce que c'est? De quoi nous parlent les pierres précieuses dans l'Écriture? Où est-il parlé surtout de pierres précieuses? Dans l'Apocalypse. Les pierres précieuses nous parlent de la gloire éternelle. Alors, nous devons donner aux âmes qui connaissent Jésus-Christ, qui se réclament de Jésus-Christ, nous devons leur parler de cette gloire future. Nous devons leur apporter ces pierres précieuses, ici tout passe, ici tout lasse. Les pierres précieuses, c'est les choses, Colossiens 3, célestes. Si vous avez été ressuscité avec Christ, pensez aux choses qui sont en haut. Affectionnez-vous aux choses qui sont en haut. C'est cela, c'est nourrir les âmes des choses célestes. C'est ce que Jésus disait. Si vous ne comprenez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Est-ce que vous êtes un peu versé dans les choses célestes, dans ces pierres précieuses du ciel, ces choses célestes? Ou bien alors, non, vous bâtissez avec du bois, du foin, hein, du chaume. Mais je ne veux rien dire de mal. Il y a des demeures qui sont faites aussi avec du bois. Mais ce qui m'apparaît toujours tragique, c'est que sur le fondement, automatiquement, je crois que ces milieux, des milieux évangéliques, même, sont bâtis sur le fondement, que ce soit la Pentecôte, que ce soit d'autres croyants, eh bien, le fondement, c'est Jésus-Christ, on ne peut pas dire cela. Hein? Quand vous entendez certaines prédications, vous dites, mais c'est quand même Jésus qui prêche. Hein? Oui ou non? C'est quand même Jésus. Mais immédiatement, sur le fondement, qu'est-ce qu'on met? Le parler en langue. C'est du foin. N'est-ce pas? Parce que ça édifie. Oui, ça peut peut-être vous édifier si vous l'avez pour vous-même. Mais pourquoi vouloir tout de suite venir? Alors que le fondement, c'est Jésus-Christ, on bâtit tout de suite autre chose. C'est du foin, c'est du bois, c'est du chaume. Ou bien alors, voilà, les adventistes, ils croient au Seigneur Jésus. Bon, mais immédiatement, qu'est-ce qu'ils viennent vous mettre? Le sabbat. Si tu ne gardes pas le sabbat, tu n'es pas vraiment sauvé, etc. Et puis d'autres, chacun a sa petite doctrine. Je dirais même si vous mettez le baptême, hein, d'abord, eh bien, c'est pas ça non plus. Je crois aussi au baptême, mais je ne veux pas devenir baptiste deux fois bébé, comme disait mon ami Jacques Blocher, qui était un pasteur baptiste. Mais il en avait marre aussi de cela, parce que pour finir, c'était comme si c'était le baptême qui sauvait. Le baptême est un signe, le baptême est une manifestation qui vous est donnée de pouvoir confesser le Seigneur. Mais quoi? C'est pas le baptême qui vous sauve, c'est Jésus. Et alors, si vous êtes sauvé par Jésus, vous désirez obéir à ce qu'il a dit et sur ce chemin-là. Mais on pourrait être baptiste puis se faire baptiser sans être converti. Hein? Baptême par immersion, il y a des églises baptistes où c'est le rite. À un certain moment, eh bien, on baptise. Et alors, c'est pas parce que vous êtes baptisé que vous pouvez prendre la communion. C'est parce que vous êtes au Seigneur. Et si vous êtes au Seigneur, vous allez progresser dans cette connaissance et dans cet amour. Alors, toute l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu, même l'or. Parce que l'or épuré s'enlève les scories. L'argent aussi doit être épuré. Tout ce que nous disons, tout ce que nous prêchons, tout ce que nous... Il faut savoir que tout sera éprouvé par le feu. Alors, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, elle recevra sa récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Mais pour lui, il sera sauvé. Je ne dis pas que ces chrétiens-là qui emploient de mauvais moyens seront perdus, comprenez-vous? Ils seront sauvés, mais leur œuvre terrestre sera consumée. Ce n'était pas cela que le Seigneur voulait. Et c'est cela que nous devons comprendre. Parce que le Seigneur voudrait nous donner un prix. Alors revenez à l'essentiel, frères et sœurs. Ne vous laissez pas impressionner par tout ce qu'on veut ajouter sur le fondement. Construisez sur le fondement, mais ayez le discernement spirituel. Parce que si je me dis, ben moi, pour savoir tout de suite si les gens que j'ai évangélisés sont convertis, je veux qu'ils prennent une décision. Alors, tout est orchestré et je veux cette décision, je la veux ce soir. C'est ma pensée. Je ne vais pas retourner ailleurs sans avoir vraiment du succès. Du succès. Vous avez vu le succès de Jésus? Le succès à la fin de ses missions? Il y a eu 5000 personnes, mais c'est merveilleux. Combien est-ce qu'il y en avait à la croix? Vous voulez du succès? Alors, je vous convainc de prendre une décision. Mais à quoi est-ce que je vous appelle? La décision que vous allez prendre, si c'est sur ma pression, c'est une pression qui est charnel. Et votre décision, qu'est-ce qu'elle risque d'être? Charnel. Mais quand vous êtes en train de vous noyer, puis qu'on vous jette une corde, et que vous la tenez, c'est pas charnel. Hein? Vous en aviez besoin. Vous pouvez pas faire autrement. Alors j'aime mieux vous laisser dans l'état où vous êtes, pour que vous ayez affaire avec Dieu qui sauve, et non pas avec moi. Parce que je vous dis de prendre la corde, puis après vous la lâchez. Parce que vous savez nager quand même. C'est pas ça le salut. Le salut, c'est Dieu qui l'opère. Et je voudrais que vous en soyez convaincus. Et je ne juge personne. Chacun, moi je serai jugé pour moi-même. Mes frères seront jugés pour eux-mêmes. Mais il nous faut non pas tomber dans l'esprit d'imitation. Et je ne juge personne, j'aime tous les hommes, j'aime tous mes frères, mais je suis obligé de vous enseigner la parole de Dieu. Et je ne peux pas prendre un meilleur exemple que l'apôtre Paul qui disait « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même, du Christ ». Et quand vous avez semé la parole, qu'est-ce que vous avez semé? L'autre jour, on le voyait là à la Villa Shalom, c'est une bonne semence. Peut-être que cette semence, comme le soulignait mon frère Noël, ne tombe pas dans un bon terrain. Mais ce n'est pas la semence qui ne valait rien. C'est le terrain qui n'était pas productif. Mais la semence reste toujours la même semence avec sa valeur. Alors Dieu soit loué que la semence est tombée dans une bonne terre, alors elle a germé. Ce n'est pas le prédicateur qui était formidable. Mais la semence avait la vie. Alors peut-être que c'est le même soir que cette âme se donne au Seigneur. Mais si moi, je force les choses, eh bien, je risque d'avoir des coliques plus tard. Parce que ces âmes qui sont décidées pour le Seigneur, elles abandonnent. Et alors, après, on a la doctrine de la perte du salut. Il faut bien expliquer tous ces déchets. Et alors, on leur dit, vous avez perdu votre salut. Comme si le salut, c'était quelque chose qu'on met dans sa poche. Hein. Puis après, on perd. Ah, j'ai perdu mon billet. C'est pas cela, c'est quelqu'un qui entre en vous et qui ne vous quitte pas. Alors, restez-en là. Alors, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Voilà, vous êtes le temple de Dieu, il habite dans le temple, quand vous êtes rassemblés, l'Esprit de Dieu est là. Et c'est lui qui doit agir. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense savoir, pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Paul est arrivé à Corinthe en disant, ben moi, je ne prêcherai pas selon la sagesse, je prêcherai Christ crucifié. Et alors il était presque découragé parce qu'il n'y avait pas de conversion. Puis c'est au moment où il voulait partir que Dieu lui dit, reste, j'ai un grand peuple dans cette ville. Et qu'est-ce qui fait les conversions? C'est Dieu. C'est Dieu. Alors on n'est pas découragé. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Aussi il est écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Et il reprend ses exemples. Au lieu que vous soyez pour Paul, c'est Paul qui est pour vous. Vous trouvez pas que c'est merveilleux? Nos richesses. Au lieu de toujours nous diviser, tout est à vous. Qui? Paul. Apollos, ils sont plus séparés, hein. Paul est à vous, Apollos est à vous, Cephas, c'est-à-dire Pierre est à vous, le monde est à vous, la vie est à vous. Alors, si le monde est à vous, vous en faites ce que vous voulez, hein. Vous n'êtes plus dominé par le monde, il vous appartient. Vous pouvez dire ça, je le laisse de côté, puis ça, je le prends. C'est ça qui est fantastique. La vie est à vous, la mort est à vous. Elle ne nous fait plus peur. Soit les choses présentes, elles sont à vous, soit les choses à venir. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux, verset 23? Tout est à vous. Vous êtes pauvre? Pauvre en vous-même, mais tout vous appartient. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Puis ensuite, alors, dans le chapitre 4, c'est bien simple, vous avez là ce que l'on peut demander d'un ministère, d'un serviteur, c'est que nous soyons les dispensateurs des mystères de Dieu qu'il nous révèle, et puis que nous soyons nous-mêmes fidèles, puisque nous sommes les serviteurs d'un Dieu qui est fidèle. Notre caractère de serviteur doit être la fidélité. Alors, on peut nous juger, même chez les chrétiens, mais ce n'est pas cela qui nous décourage, et puis je ne me juge pas moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Ce que j'ai à faire, c'est d'être devant mon Dieu. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. J'ai toujours à me poser des questions. Celui qui me juge, c'est qui? C'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez rien avant le temps. Alors ça, c'est un bon principe. Hein. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qu'il lui est due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ne glorifiez pas l'homme. Toute gloire revient au Seigneur. Et il est dit qu'il est jaloux de sa gloire, notre Dieu, et qu'il ne donne pas sa gloire à un autre. Parce que si vous mettez votre gloire dans les hommes, tout à coup cet homme va vous décevoir, hein. Vous serez découragé. Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un ou de l'autre. Car qu'est-ce qui se te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Et si j'ai reçu quelque chose, est-ce que c'est pour moi? C'est pour vous. N'est-ce pas? Et si vous, vous avez reçu quelque chose, est-ce que c'est pour vous? C'est pour moi. Alors vous voyez, tout est à nous. Alors nous sommes une famille. Nous avons tout en commun. Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner, parce que on s'était quand même un peu séparés de Paul, puis maintenant on n'a plus besoin de lui. Hein. Or, ils avaient encore besoin de lui, puisqu'il l'écrivait quand même. Et puissiez-vous régner, en effet, mais c'est tout ce que je demande, que vous ayez plus besoin de moi. Tout ce que je demande, c'est qu'on n'ait plus besoin d'avoir des retraites Mahanaïm, ni des camps Mahanaïm. C'est ça. C'est pas mon œuvre. C'est l'œuvre du Seigneur. S'il les veut, nous les continuerons. Mais c'est pas une fin. C'est seulement un un moyen, mais un moyen qui doit être vraiment biblique. Comprenez-vous? C'est de la parole que vous devez être nourri, et c'est avec la parole que vous allez retourner chez vous, et dans votre milieu, et non pas avec les idées d'un homme. Faites valoir, ayez une colonne vertébrale, et faites valoir ce que vous avez compris, non pas par mon enseignement, mais par l'enseignement de l'Écriture. Et vous voyez, tout à l'heure, une sœur vient vers moi, puis me dit, vous savez, j'aimerais tellement suivre vos... être en communion avec vous, suivre votre, vos messages. Alors j'ai dit, ça vous ferait plaisir d'avoir le texte? Alors elle l'a demandé. Alors elle a dit, bien, je serai en même temps que vous, j'étudierai. Eh bien, continuons, allons-y doucement, continuons. Car Dieu, il me semble, a fait de nous, les apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort. Regardez un peu la vie de l'apôtre Paul, en quelque sorte, puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. C'est fantastique, ça. Hein? Les apôtres, ils étaient en spectacle. On se moquait d'eux. Mais qu'est-ce qui les contemplait aussi? Les anges. Parce que vous êtes vus d'en haut. Hein? Et il y a une télévision là-haut. Et vous êtes pris. Ah, vous y êtes là-dedans. Hein? Vous êtes des fois déçus parce que dans la télévision, vous pensiez qu'on vous avait vu, puis vous n'y êtes pas. Mais là, vous y serez. Croyez-le. Puis avec toutes vos grimaces. Mais j'espère avec votre sourire. Nous sommes fous à cause de Christ. Vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, nous sommes méprisés. Mais ils sont de quel côté? Il est de quel côté, Paul? Du côté de Dieu. Les autres, ils sont du côté du monde, parce que le monde, il aime ces choses-là. Hein. Alors, vous voyez, on est du bon côté, dans ce sens-là. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Mais si nous souffrons de la faim, de la soif et de la nudité, qu'est-ce que nous expérimenterons avec le Seigneur? Il nous donnera à manger. Il nous donnera à boire. Il nous donnera le vêtement. Nous ferons des expériences extraordinaires, justement, parce que nous n'avons rien, mais nous recevrons tout de lui. Nous avons tout pleinement en Christ. Mais pour pouvoir recevoir, eh bien, quelqu'un disait, comment voulez-vous faire la prière dominicale aujourd'hui quand notre frigidaire est plein? Pourquoi est-ce qu'il est plein, ton frigidaire? Alors tu ne fais plus la prière dominicale, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. J'ai plus besoin d'appeler mon frigidaire est plein. Voilà à quoi on en arrive. Alors on met de côté la prière. Et pourtant, c'est tous les jours qu'on doit remercier Dieu de ce qu'il nous donne la possibilité de remplir notre frigidaire, s'il est plein. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Vous voyez que c'était un problème pour lui. Injurier, nous bénissons. Persécuter, nous supportons. Voilà des choses que vous devez reprendre, repasser dans vos cœurs. Calomnier, ça arrive, hein. Nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant, la plus belle. C'est bien ça. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme des enfants bien-aimés. Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Timothée. Et c'est cela qu'il prêche dans toutes les églises de Dieu, alors je ne peux pas vous prêcher autre chose. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai en parole, mais non, je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui sont enflés. Car le royaume ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Eh bien, que le Seigneur nous bénisse, l'heure est venue, c'est l'heure maintenant de manger, et nous allons rendre grâce. Dieu notre Père, nous venons de survoler ces chapitres et nous te demandons que nous puissions nous-mêmes y revenir, descendre plus bas,
et marcher à travers ces pages, non plus les survoler, mais nous arrêter à ces versets, nous en imprégner et éprouver que cette parole nous fait libre et qu'elle nous corrige parce qu'elle est inspirée de soi. Nous voulons nous laisser enseigner, corriger et ensemble se bénir par ces lieux de Dieu qui se sont.